histoire de se mettre dans l'ambiance du début du 19e, dans l'ambiance du 20e, dans l'ambiance de l'empire colonial français, de la grande exposition coloniale. Et ben on va écouter de la musique exotique et coloniale. Et alors là, ça sera une première, mais ça sera peut-être la dernière.
L'exposition coloniale, quand tout sera démoli, laissera dans la capitale un bobard vraiment joli. Si vous trouvez dans la rue un raseur, un créancier, pour abréger l'entrevue, il y aura qu'à lui chanter. Qu'est-ce que t'attends pour aller aux colonies, en Afrique, en Asie, chez le Raja ou le Sultan? Le lion, ça ne peut pas te faire peur, c'est plus doux que le percepteur. L'éléphant, c'est un peu gros, mais ça sert moins que le métro. La girafe, c'est mal fichu, mais on sèche son linge dessus. Et un serpent, c'est moins méchant que ta femme qui gueule tout le temps. Qu'est-ce que t'attends pour aller aux colonies? Là-bas, c'est la belle vie, mais reste-y longtemps. Fini dans les garçonnières d'avoir des crimes passionnels. Sans déranger le commissaire, le mari très spirituel. En trouvant l'amant de sa femme tremblant de peur sous le lit, au lieu d'en faire tout un drame, dira: voyons mon petit, qu'est-ce que t'attends pour aller aux colonies, en Afrique, en Asie, chez le Raja ou le Sultan? Le lion, ça ne peut pas te faire peur, c'est plus doux que le percepteur. L'éléphant, c'est un peu gros, mais ça sert moins que le métro. La girafe, c'est mal fichu, mais on sèche son linge dessus. Et le serpent, c'est moins méchant que ta femme qui gueule tout le temps. Qu'est-ce que t'attends pour aller aux colonies? Là-bas, c'est la belle vie, mais reste-y longtemps. Dans les banquets politiques, il y a toujours un orateur qui, le verre en main, s'explique et parle pendant une heure. Désormais, afin qu'il se taise, la fanfare au premier mot, au lieu de jouer la Marseillaise, jouera fortissimo. Para, 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 para. Le lion, ça ne peut pas te faire peur, c'est plus doux que le percepteur. L'éléphant, c'est un peu gros, mais ça sert moins que le métro. La girafe, c'est mal fichu, mais on sèche son linge dessus. Et le serpent, c'est moins méchant que ta femme qui gueule tout le temps. Qu'est-ce que t'attends pour aller aux colonies? Là-bas, c'est la belle vie, mais reste-y longtemps.
Bonsoir à tous. Alors c'était le chanteur Tramel qui chantait « Qu'est-ce qu'on attend pour aller aux colonies ?» C'était en 1931. Et tout ça pour annoncer le dossier du jour, puisque nous recevons en plateau Olivier Lecour Grand Maison. Bonsoir.
Bonsoir.
Pour son livre « De l'indigénat, anatomie d'un monstre juridique, le droit colonial en Algérie et dans l'Empire français ». Et donc c'est aux éditions Zone.
Eh ben, on avait envie, un petit peu avant d'aborder directement de quoi traite le livre, qui se concentre quand même beaucoup sur l'aspect juridique du statut de l'indigène en colonie française, si on peut dire ça comme ça. On avait envie un petit peu de revenir sur une petite contextualisation justement de cette colonisation française, à partir de quand ça débute, un petit peu une petite chronologie contextualisante un petit peu de départ avant de rentrer dans le vif du sujet.
Alors très vite, relativement plus précisément au code de l'indigénat, il se met en place en tout cas sous sa première version en 1875 en Algérie, à une période charnière dans l'histoire de la constitution de l'Empire colonial français, dans la mesure où c'est le prélude, la période de 1875, à ce qu'il va être appelé un tout petit peu plus tard, ce qu'il est convenu d'appeler la course à l'Afrique. C'est-à-dire cette période très particulière où les grandes puissances européennes, coloniales en particulier, vont se lancer dans la conquête de l'Afrique. Et rappeler que sous la Troisième République, entre 1880 et 1913, la France va devenir la seconde puissance impériale du monde, juste derrière la Grande-Bretagne, Et de cela, les républicains étaient extrêmement fiers. Ils vont conquérir, ces républicains et leurs alliés, non seulement des territoires extrêmement importants, mais avec ces territoires, des populations en nombre, d'où la nécessité assez vite de produire un droit colonial dont on verra qu'il est un droit exorbitant, qu'il est un droit d'exception permanent pour, comme on le disait de façon assez tranquille à l'époque, tenir les populations indigènes. Et c'est donc dans ce contexte que vont être expérimentées en Algérie notamment un certain nombre de dispositions juridiques répressives qui, après avoir rendu d'utile service du point de vue du colonisateur évidemment en Algérie, vont être exportées dans les autres territoires de l'Empire au fur et à mesure de l'expansion coloniale de la Troisième République.
Alors, justement, on apprend beaucoup de choses dans ce livre, notamment beaucoup de choses qu'on pensait être des exceptions, en fait, ne sont pas des exceptions et sont pensées. Enfin, il y a deux pans, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une exception à la règle, mais qui est une règle, en fait, si on peut dire, et qui est justifiée comme telle par racisme, en fait. C'est un peu le début du livre où vous décortiquez un petit peu à travers des citations de personnages politiques de l'époque, de magistrats, de chercheurs, entre autres. Sur quoi se base cette loi différente ? Elle se base d'abord sur le racisme.
Oui, tout d'abord, juste un mot sur le sous-titre « Anatomie d'un monstre juridique ». L'expression ou l'adjectif plus exactement « monstre » n'est pas de moi. Elle est employée par la plupart des grands juristes spécialistes du droit colonial sous la Troisième République. Et lorsqu'ils emploient l'adjectif « monstre », c'est pour signifier qu'ils sont parfaitement conscients que le droit colonial en général, le code de l'indigénat algérien en particulier, doivent être pensés comme des droits d'exception, ou pourrait dire autrement, comme l'exception faite règle. Et dans la mesure où l'ensemble de ce droit déroge à l'ensemble des principes démocratiques qui valent d'une part en métropole et d'autre part qui valent également pour les colons français en quelques points de l'Empire qu'ils se trouvent. Alors les justifications de ce droit d'exception s'enracinent effectivement dans une conception raciste du genre humain qui est théorisée par les ethnographes, comme on dit à l'époque, par l'anthropologie physique française notamment, mais pas elle seule, parce qu'on trouve des justifications identiques à l'étranger, par les géographes, par une science qui va beaucoup se développer sous la Troisième République et après, d'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle la psychologie ethnique ou la psychologie des peuples. Y compris pour le personnel politique républicain, pour des universitaires républicains, il va de soi, et ce n'est pas perçu comme une contradiction, c'est ça qui est rétrospectivement parfois difficile à saisir. Ils conçoivent donc, sur la base de ces sciences, que le genre humain n'est pas composé d'hommes égaux, mais au contraire que ce genre humain est composé de races inégales entre elles, et que par conséquent, les hommes qui composent ces races sont également évidemment inégaux entre eux, et qu'à ce titre, il est absolument impossible d'appliquer des principes démocratiques à ceux qu'on appelle avec un mépris souverain les nègres ou les indigènes. Ça vaut pour les libertés démocratiques, ça vaut pour le droit de vote, ça vaut pour un certain nombre de droits démocratiques comme la liberté d'expression, d'association, et plus que cela encore, ça justifie évidemment des dispositions répressives qui, encore une fois, ne sont applicables et opposables qu'aux seuls indigènes.
D'ailleurs, dans votre livre, vous expliquez bien comment, dans les colonies, on met en place des sortes de régimes des bons tyrans. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Alors, plus généralement, il faut rappeler, et c'est tout à fait singulier, parce que l'un des défenseurs de cette théorie n'est autre que Jules Ferry, grand dirigeant, comme chacun sait, de la Troisième République, et qui, rappelez qu'il a fait cette déclaration stupéfiante à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés, en disant que les races supérieures avaient un devoir envers les races inférieures, propos qui avait suscité une réplique très vive et très violente de Clémenceau, au motif que cette proposition était évidemment inacceptable au regard des principes républicains. Et évidemment, Jules Ferry et ceux qui le soutiennent passent outre. Et Jules Ferry va, au-delà de la question du droit, effectivement considérer, il n'est pas l'auteur du concept, il n'est pas l'auteur de l'expression, mais considérer que le seul régime adéquat dans les colonies, le seul régime adéquat donc aux indigènes, composé d'hommes et de femmes inférieurs, c'est le régime du bon tyran. L'idée étant, dans son esprit... de fonder d'une part l'idée qu'il ne peut pas y avoir d'extension des droits et libertés démocratiques dans les colonies, et donc que le régime qui s'applique ou qui va s'appliquer ou qui doit s'appliquer ne peut pas être pensé comme un régime républicain démocratique, qu'il est un régime de type tyrannique, mais bon tyran parce que ce régime est réputé être utile pour engager ces indigènes réputés arriérés dans la voie de la civilisation. Et donc en ce sens, il s'agit effectivement d'un régime tyrannique au regard des principes démocratiques, mais d'un bon régime tyrannique, dans la mesure où l'objectif, c'est d'arracher ces peuplades réputées inférieures à l'arriération qui est la leur et de leur faire bénéficier, dans un avenir très lointain et indéterminé, des bienfaits de la civilisation.
Eh bien, justement, ce bon tyran, en fait, il prend la figure du bon tyran, en fait, elle est incarnée la plupart du temps par les gouverneurs aux colonies. Donc, en fait, on apprend notamment dans votre livre que le gouverneur est tout puissant, en fait, dans les territoires qu'il régit. Enfin, est tout puissant. Enfin, la loi lui donne beaucoup, beaucoup de prérogatives au regard de ce qui se passe en métropole, par exemple.
Alors, effectivement, l'incarnation concrète du bon tyran, c'est la figure du gouverneur général, qui est une figure absolument essentielle dans la mesure où ce gouverneur, que ce soit en Algérie, en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale, en Indochine ou à Madagascar, en Nouvelle-Calédonie aussi, concentre sur sa personne des prérogatives extrêmement importantes, qui font qu'un certain nombre de juristes n'hésitent pas, là aussi et là encore, ça s'inscrit dans la théorie du bon tyran, à le considérer comme un dictateur. Il concentre sur sa personne des pouvoirs politiques, des pouvoirs judiciaires. Il a la possibilité d'interner les indigènes pour des motifs très vagues, disons d'ordre public. Il a la possibilité d'appliquer le principe, on y reviendra peut-être, de la responsabilité collective. Il représente la colonie à l'extérieur. Bref. Effectivement, à juste titre, comme le disent un certain nombre de juristes, c'est un dictateur et un dictateur qui peut beaucoup. Mais encore une fois, ne nous trompons pas sur les qualificatifs employés à l'époque, de même que à l'adjectif monstre. Les mêmes qui font ces analyses sont la plupart du temps les mêmes qui considèrent que seul ce type de régime est adéquat et légitime dans les colonies. Et donc, ce type d'expression ne vaut pas du tout et n'emporte pas du tout condamnation de ce qui se pratique dans les territoires conquis par la France.
Oui, tout à fait. À longueur de citations, justement, on voit que le langage des gens qui défendent ce système, il est très clair sur ce que c'est, mais pour autant, ce n'est pas une dénonciation, comme vous venez de le dire.
Oui, alors ça peut surprendre, et en même temps, quand on contextualise l'ensemble de ces discours, des représentations, des pratiques, on s'aperçoit qu'en fait, ça n'a rien d'étonnant, dans la mesure où, à l'époque, globalement, l'ensemble du personnel politique de la Troisième République, républicain, socialiste, radico-socialiste, une bonne partie des universitaires et de ceux qui pratiquent l'histoire, la géographie à titre scientifique, pensent-ils, sont d'une part absolument convaincus de la légitimité de la colonisation et d'autant plus convaincus de la légitimité de la colonisation française qu'ils sont également absolument convaincus, ça c'est un discours dominant sous la Troisième République, que l'une des particularités de la colonisation française est d'être articulée à la civilisation. Et on voit se mettre en place une sorte de discours mythologique qui oppose la bonne civilisation, la bonne colonisation à la française, donc articulée à la civilisation, et la mauvaise colonisation dont les exemples vont être pris d'une part dans la colonisation britannique et dans un événement qui est aujourd'hui totalement oublié mais qui est bien connu des hommes de la Troisième République, c'est la destruction totale de l'ensemble des populations indigènes de la Tasmanie à la fin du XIXe siècle. L'autre exemple pris comme contre-exemple de la mauvaise, par opposition à la France, de la mauvaise colonisation, c'est l'exemple de la colonisation espagnole. Et ce qui est là avancé, c'est évidemment la conquête, là, très lointaine, mais particulièrement meurtrière, du Mexique. Et donc, dans ce contexte-là,
le personnel politique, administratif, militaire, scientifique, pour le dire en ces termes, de la Troisième République, n'a pas à euphémiser particulièrement le langage. Dans certains cas, oui, mais globalement, dans les textes politiques, dans les textes scientifiques, dans les discours, dans les livres, dans les ouvrages, les choses sont en général dites avec beaucoup de clarté et beaucoup d'aplomb, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas l'impression de commettre un grand crime, mais ils ont l'absolue impression et conviction d'être dans leur bon droit et de contribuer au rayonnement international de la France.
L'une des choses aussi de la colonisation française, c'est qu'énormément de Français, comme on en parlait dans la chanson tout à l'heure, sont allés aux colonies pour travailler, pour tenter de faire fortune, pour faire du commerce peut-être. Et dans ces colonies, quels étaient les statuts différents entre les indigènes et les Français ?
Énormément de Français, oui et non. Oui, dans certaines colonies de peuplement, notamment comme l'Algérie, un petit peu comme la Nouvelle-Calédonie, non, parce que globalement, pour la majorité du personnel politique de la Troisième République, ces hommes, puisqu'il n'y a évidemment pas de femmes, pour des raisons juridiques évidentes, ces hommes estime qu'il n'y a pas assez de Français dans les colonies. Il y a un dicton qui court à l'époque qui est le suivant, qui est un dicton qui est formulé après la Première Guerre mondiale, ce qui permet de comprendre une partie de la chose, qui dit à peu près ceci, l'Allemagne a des colons mais pas de colonies, la Grande-Bretagne a des colons et des colonies, la France a des colonies mais pas de colons. Et c'est un problème pour la Troisième République parce que ça permet, où la colonisation a été pensée comme articulée à une question qui hante les fondateurs de la Troisième République, qui est la question sociale. Pour le dire en d'autres termes, la question de la Révolution, et qui n'est pas du tout un spectre lointain, mais dont l'image, qui n'est pas simplement une image, la réalité est très proche puisque c'est celle de la Commune de Paris. Et donc l'idée que la colonisation devrait contribuer à résoudre pour partie la question sociale par l'exportation de gré ou de force d'une partie des classes pauvres et dangereuses. Reste que ces colons, qu'ils soient présents en Algérie, en Nouvelle-Calédonie ou dans d'autres points de l'Empire, globalement jouissent de l'ensemble des droits et libertés démocratiques qui sont les leurs en métropole, à l'exception dans certains cas du droit de vote, parce qu'il n'y a pas les structures en place. Mais pour prendre le cas de l'Algérie, qui a un statut politico-juridique très particulier puisqu'il s'agit de départements, et donc il y a discontinuité territoriale et politique et administrative entre la métropole et l'Algérie, mais il y a continuité géographique, politique et juridique. Ce qui fait qu'un métropolitain qui va en Algérie, ou un Français né en Algérie, ou un étranger naturalisé français en Algérie, bénéficie de sa majorité de l'ensemble des droits attachés à la qualité de citoyen. Et dans le même temps, l'indigène algérien, lui, est privé des droits et libertés démocratiques, et on le verra, j'imagine, soumis au code de l'indigénat.
Oui, mais justement, on parle de sujets. Enfin, les indigènes sont considérés comme des sujets, tandis que les Européens, parce qu'il n'y a pas que des gens qui viennent de métropoles de la France hexagonale, et les Européens sont eux citoyens de plein droit. Enfin, en tout cas,
les Français sont citoyens de plein droit, absolument.
Les Français, voilà. Et vous montrez que, d'ailleurs à travers les textes de l'époque, qu'à la fin du 19e, l'Algérie, c'est un système féodal.
Alors, d'abord, il y a plusieurs questions dans votre intervention. La première, c'est sur la distinction entre sujet français et citoyen. L'expression de sujet en français est très polysémique. Dans la mesure où elle peut désigner deux choses complètement opposées, soit sujet titulaire de prérogatives, et donc citoyen, soit au contraire sujet en tant qu'assujetti. Or, relativement à l'indigène algérien notamment, c'est évidemment cette seconde acception qui est la bonne, en ce sens que l'indigène algérien est effectivement assujetti à des dispositifs juridiques d'exception.
Vous montrer que, on le dit à l'époque, système est un système...
Ah oui, sur la question de la féodalité. Alors, c'est curieux parce qu'effectivement, un certain nombre d'analystes de la situation des indigènes, pour essayer de rendre compte de leur situation très particulière au regard des principes de la République, vont, par analogie, essayer de penser cette situation relativement, effectivement, au régime féodal, dans la mesure où ils comparent en quelque sorte et rapprochent la condition du sujet indigène algérien du serf d'ancien régime, sachant que cette appréciation, là aussi, fonctionne soit comme appréciation de type constat, c'est ainsi, et il est normal qu'il en soit ainsi au regard des caractéristiques des indigènes algériens. Et dans d'autres cas, ce rapprochement emporte là, parfois, mais minoritairement, une critique de la situation faite aux indigènes algériens.
Ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence. Il a warm des boutiques. Raflon Morin Tempsentic. Qu'on laisse de les conférences. Qu'on laisse de les conférences pour étudier tous les sens. Le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des sages. C'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France. C'est la raison d'espérance. Conversations, le chômage, l'immigration. Et après les élections, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce. Chaque fois ça recommence. Echaïla yagen sport, football tesis nam l'amour. Mais il a ismen safar, azran la différence. Azran la différence. La résidence. Quand il est dur, c'est pour les migrés, bien sûr. Avec la conscience pure, dévouement et des souffrances. Dévouement et des souffrances, ça mérite la récompense. Il faut subir les conséquences. Il faut subir les conséquences, il n'y aura plus de ruminance. Et tout ça me fera du bien de retourner chez les miens. Je suis un Africain, le soleil en permanence.
Le soleil en permanence.
Le soleil en permanence. Pour moi ça a de l'importance.
C'est un droit de l'aïté. Je découle ta moulte et sferji. Je rappelle des filles et sferri. Et de mener un riche d'avance. Et de mener un riche d'avance. Jusqu'à la fin de l'existence.
Mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France, bien avant la résidence.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France, bien avant la résidence.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Bien avant la résidence.
Voilà, Voilà, on est toujours sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel, dans les oreilles loin du front, et on est ce soir en compagnie de Olivier Lecourt Grand Maison pour son dernier ouvrage paru aux éditions Zone, qui s'intitule « De l'indigénat, anatomie d'un monstre juridique, le droit colonial en Algérie et dans l'Empire français ». Eh bien justement, on parlait de l'Algérie juste avant la pause musicale. On se rend compte très clairement dans tous les textes que vous convoquez que l'Algérie est non seulement un modèle, mais c'est là qu'on teste des dispositions de droit colonial avant de les appliquer à d'autres territoires.
Alors effectivement, depuis longtemps, globalement depuis les années 1840 et depuis ce qu'il était convenu d'appeler la pacification de l'Algérie par le général Bugeaud, donc nommé gouverneur général de ce territoire en 1840, l'Algérie a été considérée par la métropole comme une sorte de gigantesque laboratoire au sein duquel des techniques militaires, des techniques répressives, des techniques juridiques, des dispositions juridiques ont été élaborées, appliquées, et lorsqu'elles ont donné satisfaction du point de vue du colonisateur, ont été d'une part étendues aux autres territoires conquis par la Troisième République au fur et à mesure de l'expansion coloniale entre 1881 et 1913, et parfois, j'imagine qu'on y reviendra, importées en métropole dans des contextes particuliers. Alors, un des éléments notamment, c'est le Code de l'indigénat. Donc, première version 1875, texte extrêmement connu à l'époque, et des juristes et des hommes politiques, notamment de la Chambre des députés, parce que c'est un texte qui a été discuté à peu près tous les 7 ans, parfois amendé de façon substantielle. Évidemment très connu de ceux qui le subissent, c'est-à-dire les indigènes, qui lui ont donné un surnom qui dit bien quelle est sa fonction, puisque ce code de l'indigénat est appelé code matraque. Et donc, de ce point de vue-là, les indigènes voient très vite quelle est sa fonction ultime. C'est d'abord et avant tout, non pas un code destiné, comme le code civil, par exemple, à accorder des droits à protéger, à égaliser, à émanciper, à garantir la sûreté des biens et des personnes. C'est au contraire un code qui a pour objectif d'assujettir et de faire peser sur les indigènes un réseau extrêmement dense d'obligations très strictes, susceptibles de déboucher sur des sanctions parfois importantes. Et ce code de l'indigénat va effectivement être la matrice à la fois, disons, politique et juridique, à partir de laquelle vont être élaborés les autres codes de l'indigénat appliqués en Nouvelle-Calédonie, en Afrique équatoriale, Afrique occidentale française et en Indochine, sachant que le code de l'indigénat et le code algérien et le code de l'indigénat en Nouvelle-Calédonie étaient considérés parmi les plus durs des codes existants. Et c'est très certainement lié, d'une part, à la réitération dans ces deux territoires d'insurrections perçues comme extrêmement dangereuses par les autorités coloniales, et d'autre part, lié sans doute aussi au fait que les deux caractéristiques communes de ces deux territoires et qui tranchent par rapport aux autres colonies de l'Empire, c'est d'être dans les deux cas des colonies de peuplement. Et cela débouche sur des dispositifs politiques, juridiques très spécifiques, donc globalement, qui reposent tous sur une idée, au fond, la mise à l'écart à la fois politique, juridique et symbolique, parfois géographique, urbaine et spatiale de l'indigène.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les principes de ce code ?
Alors, les principes du code, c'est, en fait, précisons une chose d'abord, il ne s'agit pas d'un code qui a l'envergure, la majesté, la beauté du code pénal, du code civil. C'est un texte très court qui repose sur la mise en forme juridique parfois de pratiques des gouverneurs généraux antérieurement, et qu'il s'est agi pour la puissance coloniale à un moment donné de formaliser, de ramasser dans un texte unique. D'une part parce que ça permettait au personnel administratif, politique, répressif de la puissance coloniale de s'appuyer sur des dispositions codifiées, et d'autre part ça permettait de rendre ou de faire croire que le pouvoir exercé dans la colonie était moins arbitraire, puisque ce pouvoir exorbitant pouvait apparemment se soutenir de la loi. Se soutenir du droit, mais d'un droit, encore une fois, dont l'objectif n'est pas d'émanciper, d'égaliser, mais au contraire, d'asservir.
Oui, d'ailleurs, en fait, si je ne me trompe pas, si je viens de lire votre livre, le code de l'indigénat s'appelle Arrêté général sur les infractions de l'indigénat.
Absolument.
Voilà, donc en fait, c'est vraiment un guide d'une chose à ne pas faire.
On pourrait dire que c'est une sorte de memento à usage du colonisateur pour rappeler au personnel politique et administratif en place quelles sont effectivement les obligations qui pèsent sur les indigènes, et d'une certaine façon aussi, et évidemment c'est aussi un memento pour les indigènes, qui doivent donc respecter dans toute une série d'éléments de leur vie quotidienne des obligations très singulières. Exemple, c'est l'une des caractéristiques de la condition de sujet français, donc d'indigène, l'absence de liberté démocratique d'une part, mais aussi, et c'est en partie une conséquence, l'absence de liberté de circulation à l'intérieur même du territoire de la colonie, et pendant longtemps aussi l'absence de liberté de circulation entre la colonie et la métropole. Et relativement aux indigènes algériens, mais ça, les mêmes dispositions ont été appliquées en Afrique équatoriale et occidentale française, également en Nouvelle-Calédonie. Obligation faite aux indigènes lorsqu'ils quittent leur domicile pour un autre domicile, d'en avertir la mairie de départ et la mairie d'arrivée, et plus précisément encore d'indiquer le chemin qu'ils vont suivre pour se rendre d'un point A à un point B. Et rappeler que, contrairement à la légende dorée de la colonisation française, en Afrique équatoriale et occidentale française, par exemple, s'établit une sorte de couvre-feu qui est soit implicite, soit juridiquement sanctionné, qui fait que les indigènes ont interdiction de circuler dans les quartiers blancs après 22h et avant 5h du matin. Et des dispositions analogues ont été appliquées pendant longtemps en Nouvelle-Calédonie, où les Kanaks étaient effectivement interdits de circulation à Nouméa aux mêmes heures. Et évidemment, les infractions à ce type d'obligation étaient susceptibles de déboucher soit sur des amendes et éventuellement, en cas de récidive, sur l'internement administratif prononcé par le gouverneur général.
Voire on pouvait être abattu dans certains cas.
Alors là, il y a un certain nombre de témoignages, effectivement, notamment des textes qui sont extrêmement intéressants à la fois sur le plan littéraire, historique, ethnographique. Les textes de quelqu'un qui a été un très grand écrivain français, parce qu'il écrivait en français, ce qui ne veut pas dire qu'il était français, francophone, disons-le plus précisément, qui a été un fonctionnaire indigène colonial dans ce qu'il était convenu d'appeler à l'époque le Soudan français, globalement le Mali aujourd'hui, qui est évidemment Amadou Ampateba, et qui, dans un certain nombre de ses ouvrages, témoignages ou romans, signale effectivement qu'un indigène qui se risquait à l'époque, et l'époque c'est les années 1920-1930, nous ne sommes pas en 1850, nous sommes en pleine première moitié du XXe siècle, un indigène qui se risquait effectivement dans un quartier blanc la nuit risquait d'être abattu sans sommation, et la chose ne paraissait pas exorbitante, ça paraissait relever du maintien de l'ordre public colonial.
Justement, puisque vous parlez d'Ampateba, mais ça nous ramène aussi à travers ce livre, on croise quelques rares figures des premiers anticolonialistes que vous citez. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui étaient ces gens
Alors, je ne sais pas auquel vous pensez, parce que véritable anticolonialiste, en fait, sous la Troisième République, compte sur les doigts des deux mains. Oui. Je veux dire par là que si l'on entend par anticolonialisme une position qui consisterait à condamner sur la base des principes démocratiques et républicains ce qu'il était convenu d'appeler à l'époque l'aventure coloniale, et conséquence de cela de militer pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et donc l'indépendance des colonies, ils sont extrêmement rares. Même André Gide, qui a souvent été porté au nu par la SFIO et le Parti communiste, enfin à certaines périodes, en disant que retour du Congo, retour du Tchad étaient des grands textes anticolonialistes. Quand on y regarde de plus près, ce n'est pas vrai. André Gide, qui va être très violemment attaqué après la publication de Retour du Congo, très violemment attaqué par ce qu'on pourrait appeler au fond les lobbies coloniales, va se défendre de la façon suivante en disant que la condamnation qu'il fait du travail forcé, rappelez que cette affaire a quand même fait la bagatelle de 17 000 morts pour 140 km de chemin de fer Congo-Brazzaville, c'est cher payé la traverse, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc Gide va dire, mais moi, ma condamnation du travail forcé, je condamne le travail forcé parce que si vous persévérez dans cette voie, vous risquez de nous aliéner les indigènes et vous risquez de contribuer à faire en sorte que la France ait une mauvaise image dans l'Empire. Et en fait, la position politique d'André Gide n'est pas une position de condamnation du colonialisme. Ce qu'il rêve, autre chose est la question de savoir si la chose était praticable. Pour le dire en ces termes, au fond, Gide défendrait une sorte de colonialisme à visage humain qui consisterait à octroyer des droits et libertés démocratiques. Il n'est pas très précis sur cette question, disons, aux indigènes, mais sans jamais aller jusqu'à la conclusion ultime, à savoir la condamnation de principe du colonialisme. Alors, il y a quelques figures qui ont incarné ce courant. Alors, il se trouve qu'après, certaines d'entre elles ont changé de position. Je pense en particulier à Clémenceau, qui, lors du débat de l'été 1885, avec Frédéric Passy, premier prix Nobel de la paix français, vont effectivement mener une bataille de principe contre la conquête de Madagascar et au-delà de la conquête de Madagascar, contre l'aventure coloniale, en faisant entendre un discours très intéressant qu'on peut résumer au fond de la façon suivante. Ils disent à peu près ceci. Soit vous êtes fidèle aux principes républicains, auquel cas vous ne pouvez pas soumettre par la guerre des peuples que vous jugez inférieurs, et vous ne pouvez pas les assujettir à votre domination, soit vous vous engagez dans cette voie et auquel cas vous serez immanquablement conduit à trahir ces principes républicains. Et donc là, dans ce débat, qui est un débat qui, au départ, est motivé par des raisons conjoncturelles, devient très rapidement un débat de principe, sont formulés effectivement par Clémenceau et Frédéric Passy un certain nombre d'arguments qui sont, sur le plan politique et juridique, au fond, le prélude au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le problème, c'est que cette tradition-là, qui à l'époque d'ailleurs n'est pas une tradition, va être extrêmement minoritaire pendant la première moitié du XXe siècle.
Oui, mais je pensais plutôt, mais je vais citer les noms, à Chérif Ben Abiles que vous citez, ou Chalet, j'ai oublié son prénom, Frédéric François.
Félicien.
Oui,
alors, il y a quelques individualités, des personnalités indigènes, comme on dit à l'époque, qui sont-elles véritablement anticolonialistes? Il faudrait y voir de plus près. Assurément, elles sont contre l'absence de droits et libertés démocratiques. Elles demandent l'abolition de l'ensemble des mesures d'exception. Les revendications à proprement parler relatives à l'indépendance sont très minoritaires. Il y a quelques voix dissonantes à gauche. Relativement à Félicien Chalet, je ne suis pas sûr, là encore, que sur le fond, il puisse être véritablement considéré comme un anticolonialiste réel, dans la mesure où il est tout à la fois extrêmement critique vis-à-vis de l'ensemble des dispositions coloniales, et les textes qu'il a produits sont des textes très riches du point de vue des pratiques, du point de vue des conséquences de la colonisation. Il est contre les dispositions les plus attentatoires aux droits et libertés démocratiques, mais je ne suis pas convaincu qu'il aille jusqu'au bout, en ce sens que, et c'est lié au contexte de l'époque, fort peu de contemporains pensent que ces peuples sont véritablement capables de se diriger eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que la domination coloniale imposée par la Troisième République est à leurs yeux légitime, mais ça ne veut pas dire non plus que cette absence de légitimité de la domination coloniale conduit cela à conclure que les peuples indigènes sont suffisamment développés pour pouvoir bénéficier d'une indépendance et d'une véritable autonomie politique, économique et juridique.
Parce que là, tout à l'heure, vous parliez d'André Gide qui critiquait le travail forcé dans les colonies. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans ces colonies, il y avait effectivement du travail forcé et même de l'esclavage.
Alors, sur le travail forcé, il faut préciser une chose, parce que la distinction est fondamentale. Le travail forcé dans les colonies est un travail forcé qui est fondamentalement applicable aux populations civiles. Je veux dire par là qu'il faut le distinguer du travail forcé lorsque celui-ci vient s'ajouter à une peine privative de liberté. En effet, dans le code de l'époque, code pénal de l'époque, le travail forcé, dès lors que quelqu'un a commis un crime relativement grave ou perçu comme tel, le travail forcé vient s'ajouter à la peine privative de liberté. Là, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas d'un travail forcé qui vient sanctionner une infraction grave au code pénal. Il s'agit d'un travail forcé qui est imposé par la puissance coloniale, mis en œuvre par les gouverneurs généraux, et qui s'applique à l'ensemble des populations, hommes, femmes et enfants. Les conséquences du travail forcé et surtout du déplacement forcé des populations vont être dramatiques, notamment en Afrique équatoriale française. Et rappelez ceci que la douce France républicaine, qui ne l'est pas tellement, même pas du tout dans les colonies, va être avec le Portugal et l'Espagne, les seules puissances coloniales européennes à refuser de ratifier la convention internationale élaborée par le Bureau international du travail en 1930 tendant à la condamnation et à la prohibition du travail forcé dans les colonies. Même la Grande-Bretagne, qui est la première puissance coloniale du monde, même les Pays-Bas, qui sont la troisième puissance coloniale du monde, acceptent de ratifier cette convention. La France, faut-il le rappeler, ne va abolir le travail forcé qu'en 1946, et rappeler là aussi, contrairement à une certaine mythologie, même la conférence de Brazzaville de 1944, pourtant présidée par le général de Gaulle, qui réunit un personnel politique, militaire, administratif de la France dite libre, c'est-à-dire des hommes qui ont pris fait et cause pour le général de Gaulle contre le gouvernement de Vichy, ceux-là, tous Français libres qu'ils sont, n'envisagent pas en 1944 l'abolition immédiate du travail forcé. Ils prévoient une sorte de moratoire d'abolition sur 5 ans, c'est-à-dire qui aurait conduit à l'abolition du travail forcé en 1949. Et il a fallu, d'une part, un changement de conjoncture politique lié à la libération du territoire national et la mobilisation d'un certain nombre de députés pour que le travail forcé soit effectivement définitivement aboli en 1946. Il faudra encore plusieurs années avant que le Code du travail métropolitain s'applique effectivement dans les colonies. Et rappeler effectivement aussi que contrairement à la légende dorée de la Troisième République, l'esclavage a perduré dans les territoires dominés par la Troisième République. Alors, préciser que cet esclavage est un esclavage particulier, c'est un esclavage dit de caste, traditionnel, qui existait avant l'arrivée des puissances coloniales européennes en Afrique. Mais en ce qui concerne la Troisième République, on voit surgir en 1900, à la fois parmi le personnel politique, parmi ce qu'on appellerait aujourd'hui les intellectuels et un certain nombre d'universitaires, un débat où les termes du débat sont posés de façon très claire. Faut-il, oui ou non, abolir l'esclavage traditionnel dans les colonies? La réponse va être non. On n'abolit pas.
Ban myon ti limye men, ban myon ti limye sou ple pou m ka wè. Pou ki sa senèg yo fè soufri, pou ki sa senèg yo fè son, pou ki sa neg pa ka manje. Mais c'est pas tout le monde qui jouit privilège ça. Gagne une série de mots, c'est pour une catégorie qui existe. Bonheur, joie, contentement, à gaieté, yo pas jamais joué moment ça yo. Yo là y'a vivre au jour le jour. Après chita tant, nous gain pour nous passer toute vie dans la salle d'attente.
Maman nous te la donne, papa nous te la donne, nous-mêmes même nous rentrer là dans l'épirette. C'est tous ces fonds nous pour l'été, car la manne va tomber encore. Soleil éclairé pour nous tous, de nous tous va joindre même chalet. Soleil va éclairer pour nous tous, de nous tous va joindre même chalet. Soleil va éclairer pour nous. Et tout le monde va joindre même chalet tonnerre. Bon, mon petit limier souple. Bon, mon petit limier tonnerre. Bon, mon petit limier.
Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Vous êtes dans les oreilles loin du front et on est toujours en compagnie d'Olivier Lecourt, Grand Maison. Et on, juste avant la pause, qui est juste avant Mano Charlemagne, on parlait de, du travail forcé et de l'esclavage de cases. Et vous aviez quelque chose à ajouter sur, ce, sur spécifiquement l'esclavage de cases.
Non, relativement à l'esclavage de cases, dire donc que le débat est tranché négativement relativement à son abolition en, en 1900. Et préciser qu'il ne s'agit pas simplement pour la puissance coloniale de contempler une institution de type servile, l'esclavage dit domestique, mais qu'une partie du personnel politique, militaire, administratif va non seulement contempler l'institution, mais dans certains cas prélever des impôts en espèces et en nature sur les caravanes d'esclaves qui traversent les colonies françaises. Donc ce n'est pas simplement une contemplation lointaine. On peut dire au fond que les colons ou le système colonial de l'époque a aussi profité de cet esclavage de cases. Et on a notamment profité pour le travail forcé, en ce sens que le maintien d'un certain nombre de chefs traditionnels sur lesquels le pouvoir colonial s'appuyait, des chefs traditionnels qui pouvaient parfois être possédés des esclaves, plusieurs centaines d'esclaves, il était demandé par la puissance coloniale à ces chefs de fournir de la main-d'œuvre pour les, dans le cadre des travaux d'intérêt général, dans le cadre des réquisitions, et évidemment, ces chefs traditionnels fournissaient leurs esclaves pour éventuellement aller travailler sur les chantiers. Donc il y a un rapport structurel entre l'esclavage dit de case et le recours effectivement au travail forcé, dont il faut rappeler à l'heure où un certain nombre d'hommes politiques et d'intellectuels resservent des discours convenus sur les bienfaits de la colonisation en nous disant ou en cherchant à faire croire que la France a construit là-bas toute une série d'infrastructures, écoles, hôpitaux, routes et chemins de fer, rappeler à cela que leur vision est à la fois partielle et partiale, parce que dans l'écrasante majorité des cas, faut-il le rappeler, ces infrastructures ont été construites par le recours au travail forcé, et dans certains cas, un recours au travail forcé extrêmement mortifère. Les taux de mortalité sur un certain chantier étaient entre, compris entre 50 et parfois 80%. Il y a eu des tentatives d'importation de main-d'œuvre étrangère en Afrique, de main-d'œuvre indo-chinoise, chinoise, dans certaines portions de l'Afrique équatoriale et occidentale française. Le bilan est qu'en général, ceux qui ont été importés de gré ou de force pour travailler sur les chantiers, aucun n'en est revenu. C'est d'ailleurs pour ça que l'expérience s'arrête. Mais donc le bilan humain de ces affaires est effectivement extrêmement lourd et dénoncé d'une part par André Gide et d'autre part par quelqu'un qui a été un très grand journaliste et un très grand analyste également des ressorts de la puissance coloniale française, qui est Albert Londres, qui publie un texte très important qui s'appelle « Terre d'ébène » et qui est également un extraordinaire témoignage sur la réalité dramatique de la colonisation française, notamment en Afrique noire.
Alors, on va revenir un petit peu sur, plus spécifiquement sur l'application du code de l'indigénat et donc sur notamment le recours à l'internement administratif et à, aux punitions collectives, à l'amende collective. Et alors déjà, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que ça recouvre dans chacune de ces, On peut reprendre dans l'ordre, déjà l'internement administratif.
Alors, relativement à l'internement administratif, rappelez que c'est une mesure décidée par le gouverneur général qui peut priver un indigène de sa liberté pour des motifs très généraux relatifs au maintien de l'ordre public colonial, pour une durée qui n'est pas déterminée, c'est-à-dire qui n'est pas fixée a priori, et en un lieu qui n'est pas non plus fixé a priori. C'est une mesure qui est pensée d'abord et avant tout pour les indigènes, qui va s'appliquer d'abord et avant tout en Algérie, que tous les juristes de l'époque considèrent comme une mesure absolument exorbitante du droit commun. Et rappeler que l'internement administratif n'a pas simplement été appliqué en Algérie, il a également été appliqué dans les autres territoires colonisés par la Troisième République, avant que d'être importé en métropole dans le cadre d'un décret de novembre 1938 d'abord, puisque l'internement administratif va être utilisé à l'encontre des républicains réfugiés et des républicains espagnols réfugiés en France, dont il faut rappeler qu'ils n'ont pas été accueillis, contrairement à la légende dorée de la Troisième République, là encore, et qu'en fait d'accueil, ceux-là ont été effectivement internés dans des camps, notamment à Gurs, et internés grâce à l'importation en métropole d'une technique répressive, d'abord et avant tout élaborée pour les indigènes. Ce à quoi on assiste est un phénomène d'extension et de banalisation. L'extension permettant la banalisation de cette mesure, plus cette mesure se banalise, plus elle peut être étendue. Et la preuve de ce double processus, c'est qu'un an plus tard, en novembre 1939, pour la première fois dans l'histoire répressive, politique et juridique française, l'internement administratif est utilisé contre des nationaux, considérés comme des ennemis intérieurs, et ceux qui, à l'époque, sont considérés comme des ennemis intérieurs, c'est les membres du Parti communiste, et celui qui applique pour la première fois cette mesure contre des nationaux est le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui n'est autre qu'Albert Sarraut, qui a été antérieurement gouverneur général de l'Indochine et deux fois ministre des colonies. C'est donc quelqu'un qui connaît parfaitement bien le droit colonial en général et l'internement administratif en particulier. Et de ce point de vue-là, il n'a fait que utiliser cette disposition juridique exorbitante qu'il connaissait donc pour l'appliquer sur le territoire métropolitain à l'encontre des nationaux. Rappelez qu'aujourd'hui, dans un contexte politique et juridique distinct, mais que l'internement administratif est toujours appliqué à l'encontre des étrangers en situation irrégulière, mal nommés clandestins, ce sont toujours les mêmes types de dispositions, même si, ne concluons pas trop vite sur ce point, même si, évidemment, aujourd'hui, l'internement administratif des étrangers en situation irrégulière est infiniment plus encadré sur le plan juridique et du contrôle. Il n'en reste pas moins que l'origine de cette disposition, aujourd'hui parfaitement banalisée relativement aux étrangers en situation irrégulière, l'origine de cette disposition est une origine effectivement coloniale. Relativement à la responsabilité collective, rappelez d'abord une chose qui est nécessaire et très importante. Le principe de la responsabilité collective consistait donc à châtier collectivement les populations d'une tribu au motif que le pouvoir colonial suspectait un membre de la tribu d'avoir commis un délit ou par exemple d'avoir incendié une forêt. Dès lors que le coupable n'était pas trouvé, c'était sa commune d'origine, son douar d'origine, sa tribu d'origine qui était collectivement frappée d'une amende. Et rappelez évidemment que le principe de la responsabilité collective est un principe qui contrevient à tous les principes modernes et démocratiques de la peine, selon lequel nul ne peut être châtié et sanctionné pour un délit qu'il n'a pas commis. Et donc, là encore, c'est une disposition absolument exorbitante et dérogatoire, d'exception, donc du droit commun. Cette responsabilité collective va être abondamment utilisée en Algérie, notamment pour frapper d'amendes collectives pour des montants astronomiques, les tribus kabyles qui se sont révoltées en 1870-71, qui vont être extrêmement appauvries à la suite de ces amendes collectives. Et rappelez là encore que le droit colonial, de ce point de vue-là, n'est pas un droit complètement passé, dans la mesure où le principe de la responsabilité collective, là aussi, outre qu'il a été appliqué dans l'ensemble des autres territoires de l'Empire français, la responsabilité collective a été là aussi et là encore importée sur le territoire métropolitain,
Une première fois en 1970 dans le cadre de la loi Pleven, dite loi anti-casseurs, et beaucoup plus récemment par la grâce entre guillemets d'un ancien ministre aujourd'hui renvoyé dans ses foyers, si je puis dire, qui n'était autre que Christian Estrosi, mandaté ou requis par le président de la République lui-même. Et donc Christian Estrosi, la loi du 4 mars 2010, donc c'est un texte législatif très récent, ce n'est jamais que le 19e texte sur la sécurité voté depuis 2001, Christian Estrosi a effectivement introduit le principe de la responsabilité collective. Ce texte de loi porte sur les bandes, tant et si bien qu'aujourd'hui, effectivement, ce principe de la responsabilité collective peut être appliqué à quelqu'un qui est membre d'une bande dite dangereuse, qui a commis des violences, la bande, ou qui s'apprête à en commettre, alors même que la personne qui va être sanctionnée, elle, n'a commis aucun délit. Et celui-là peut être puni de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Et Christian Estrosi, interviewé par un journaliste du Monde, répondait tout à fait benoîtement que, je cite, « on est dans le domaine de la responsabilité collective qui n'existait pas jusqu'ici ». Et donc il est parfaitement conscient d'introduire dans ce droit français pénal très récent une disposition relativement nouvelle. Mais comme il est un peu ignorant aussi, il ne sait pas, un, qu'il y a un antécédent dans la loi Pleven, ou peut-être feint-il de ne pas le savoir. Et par contre, assurément, vraisemblablement, il ignore totalement que l'origine de cette disposition répressive, l'origine de la technique répressive de la responsabilité collective doit être cherchée, encore une fois, dans le doux et glorieux passé colonial de la France, donc qui continue de produire des effets, là, très concrets.
Oui, très actuels.
Par hasard, d'être mobilisé en partie contre ceux que le pouvoir politique stigmatise en les nommant jeunes des banlieues issus des migrations. Ça fait au moins 3 stigmates les uns ajoutés les uns aux autres, jeunes des banlieues et issus des migrations.
Oui, d'ailleurs, on ne sait pas trop jusqu'où va la jeunesse, parce que parfois ça s'étend un petit peu.
Oui, et dans ce cadre-là, en général, la jeunesse est un principe et un concept très extensif.
Oui, tout à fait. Alors, pour essayer de conclure un petit peu, même si on a malheureusement pas tout évoqué, mais heureusement aussi, d'ailleurs, parce que ça permettra de lire le livre, parce qu'il n'était pas question de tout décortiquer ici, un petit peu terminer sur, justement, cette mythologie nationale qui s'est construite en gommant un petit peu tous ces aspects de la colonisation. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, le fameux truc positif qui est les routes, les hôpitaux,
les médecins, les instituteurs qui venaient partout.
Les écoles et tout ça. Bon, ça, vous le démontez assez rapidement, mais très bien. C'est un bon guide de réponse au cas où. Notamment avec la future création du musée de l'histoire de France, le pseudo-débat sur l'identité nationale, selon vous, comment vous analysez justement ces répercussions à la fois, comme on vient de le voir, il y a des répercussions concrètes, mais il y a aussi idéologiquement des traces encore aujourd'hui.
Non seulement des traces, mais plus que des traces, dans la mesure où la présidence de Nicolas Sarkozy, l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République coïncide avec une entreprise de réhabilitation du passé colonial de la France comme il n'y en a pas eu depuis la fin de la guerre d'Algérie en 1962. Rappelez par ailleurs que la loi du 23 février 2005 est toujours en vigueur, qu'elle produit des effets politiques, juridiques et institutionnels, notamment puisque... un des articles de cette loi prévoyait en 2005 la mise en place d'une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie. Et pendant 5 ans, cet article était resté dans les limbes et cette fondation n'avait pas vu le jour. Le pouvoir actuel a choisi de pousser les feux sur ce terrain et d'annoncer le 19 octobre 2010 la création effective de cette fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, qui témoigne d'une offensive continuée par Nicolas Sarkozy et la majorité qu'il soutient de réhabilitation du passé colonial, l'enjeu étant évidemment un enjeu très bassement électoraliste. Nicolas Sarkozy avait déclaré en 2007 qu'il irait chercher les électeurs du Front National un par un. C'est sa formule, elle avait le mérite de la clarté de ce point de vue-là. Et pour aller chercher les électeurs du Front National un par un, il n'y a pas 36 000 moyens, il y en a fondamentalement deux. Un, réhabiliter le passé impérial de la France, c'est évidemment très important dans le sud de la France et pour toute une série d'élus locaux, mais pour le candidat à l'élection présidentielle également. Et l'autre moyen trouvé pour aller chercher ces électeurs du Front National un par un, ça a été évidemment la stigmatisation des étrangers. Et donc, j'ajouterais que sur ce premier terrain-là, sur la question de la réhabilitation du passé colonial de la France, je pense qu'on va vers une situation qui va se tendre au fur et à mesure qu'on va approcher des élections présidentielles, notamment parce que nous allons être confrontés à la conjonction ou à la confrontation d'un calendrier mémoriel et d'un calendrier politique comme très particulier, puisque rappelez que le 17 octobre 2011, c'est-à-dire dans quasiment 10 mois, cela va être le 50e anniversaire des massacres d'octobre 61, et que mars 2012 sera le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie en pleine campagne des élections présidentielles. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que la question coloniale en général et la question de l'Algérie en particulier va être un élément, pas forcément central, mais un élément relativement important du débat politique au moment des élections présidentielles. Et d'ailleurs, une partie de l'UMP fourbille déjà les armes sur ces questions. Et les réactions à la sortie du film de Rachid Bouchareb, Hors la loi, témoignent d'une radicalisation absolument évidente de l'UMP sur ces questions. Je rappelle ceci, qu'une manifestation appelée par des élus de l'UMP, qui étaient des élus locaux, qui portaient écharpes tricolores, parmi les manifestants, certains se sont crus autorisés à crier « Bouchareb hors de France ». Si quelqu'un s'était avisé de faire la même proposition ou de scander le même slogan à l'encontre de quelqu'un qui aurait porté un patronyme juif, celui-là, vraisemblablement, aurait été immédiatement poursuivi pour propos antisémites. Ce que témoigne cette affaire, c'est d'un côté une intolérance nécessaire, faut-il le rappeler, et à mes yeux absolument indispensable, à l'endroit des discours antisémites, et de l'autre, une tolérance de plus en plus grande à l'endroit des discours objectivement racistes et antisémites. Racistes et xénophobes, pardon. Et de ce point de vue-là, je pense donc qu'au regard de la conjonction du calendrier mémoriel et politique, les mois qui vont venir, relativement au passé colonial de la France, vont nous réserver sans doute un certain nombre de surprises. Et c'est évidemment pas un hasard si le pouvoir actuel a cru nécessaire et jugé bon de pousser les feux sur la question de l'activation de la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, parce que ce qu'ils veulent, c'est que la structure soit en place pour les élections présidentielles et puisse commencer effectivement à faire entendre le doux discours, selon eux, selon laquelle effectivement la France a fait l'Algérie et lui a apporté toute une série de bienfaits.
Bah, en tout cas, en lisant votre livre, on est persuadé du contraire.
C'était l'un des objectifs de l'ouvrage.
Tout à fait. Et donc, on vous invite à lire ce livre. Donc, c'était Olivier Lecourt, Grand Maison. Donc, le livre s'intitule « De l'indigénat, anatomie d'un monstre juridique, le droit colonial en Algérie et dans l'Empire français ». C'est publié aux éditions Zone, ça coûte 16 €. Et bonne lecture. Merci d'être venu sur le plateau
Une des précision. Oreilles. Ce livre est en accès libre sur Internet sur le site de Zone. Il peut donc être consulté absolument en accès libre sur Internet et il peut évidemment être acheté en librairie, mais il peut être consulté à la fois intégralement et gratuitement sur Internet.
C'est super. Et donc maintenant, il faut le lire.